RCF.
Bonjour, fidèle auditeur, auditrice de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Bonjour, Michel Dijoigny.
Bonjour.
Nous arrivons à notre troisième mission sur les instituteurs de notre département dans la guerre 14-18. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes professeur agrégé d'histoire honoraire, président de la section du Cher des membres de l'Ordre des Palmes Académiques. Aujourd'hui, alors que nous allons commémorer le centième anniversaire de l'armistice de cette guerre de 14-18, nous retrouvons nos instituteurs berrichons après la guerre. Alors justement, après la guerre, nos instituteurs dont vous avez parlé avec beaucoup de fougue et de passion. Ma première question, le retour est-il facile pour ces instituteurs? Et une question subsidiaire, supportent-ils leurs élèves?
Alors supportent-ils leurs élèves? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils reviennent. Pas tous, bien sûr, puisque si l'on en croit le monument aux morts qui est placé aujourd'hui dans les locaux de l'école de l'ESPE, ancienne IUFM, ils sont 81 instituteurs du Cher à être tombés pour la France. Alors, ces 81, je n'ai pas pu retracer pour tous leur itinéraire parce que les documents militaires et les documents de l'inspection académique sont parfois lacunaires. Mais en tout cas, ceux-ci ne reviennent pas. Ils feront l'objet d'un culte dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Alors, il y a bien sûr des blessés et des invalides de guerre qui reviennent. Alors, certains reviennent avant la fin de la guerre, je pense en particulier à René Barbou qui, dans l'exposition, est l'objet d'un panneau particulier. C'est vraiment un héros de la guerre puisqu'il perd un bras à l'armée d'Orient. Et en fait, il demande à reprendre son poste avant la fin de la guerre. Il est réformé, bien sûr. Et il reprend son poste, un bras en moins, et il va poursuivre une carrière totalement normale et assez brillante jusqu'à sa retraite. Alors, certains donc reviennent très fatigués. On a des rapports d'inspection qui le montrent. Certains demandent à ne pas avoir, par exemple, un cours préparatoire parce que c'est plus fatigant. Et les inspecteurs notent pendant plusieurs années que certains ont beaucoup de mal à se remettre. Alors, soit de leurs blessures, soit du traumatisme, on dirait aujourd'hui, de ce qu'ils ont vécu pendant au moins 4 ans. Alors certains sont revenus un petit peu plus tôt parce que à partir de 1916-1917, l'armée consent à libérer, enfin à donner des sursis d'appel à un certain nombre d'instituteurs pour justement remplir les classes en manque de maîtres. Alors tous, il y a un certain nombre d'entre eux qui décident de ne pas revenir dans l'instruction publique parce que d'abord ils ont trouvé que l'armée leur offrait des carrières bien plus intéressantes. Donc certains vont rester à l'armée, d'autres vont partir dans d'autres directions professionnelles, comme si la guerre avait constitué pour eux une cassure, une rupture. Voilà. Par contre, tous les autres reviennent, mais probablement vont avoir des difficultés à se couler à nouveau dans un moule, peut-être un carcan d'ailleurs, comme je le montre dans l'exposition dans la première partie, parce que pour un instituteur, la considération que l'institution lui porte est assez faible. Il a l'impression d'être un caporal, si on peut dire, comme le disait l'assiette au beurre dans une caricature. Il n'a pas de rôle particulièrement prestigieux, contrairement à ce que l'armée a pu lui montrer comme accélération de grade, comme, je dirais, occasion tout à fait exceptionnelle de montrer leur valeur. Voilà, donc ils ne reviennent pas tous pour des raisons différentes.
Ah, tout à fait. Donc, ils ne rentrent pas tous dans l'école?
Non.
Donc, certains font une carrière militaire?
Oui.
Est-ce que certains abandonnent?
Abandonnent l'enseignement?
Oui.
Ah oui, bien sûr. Oui, certains deviennent exploitants agricoles. Alors, certains partent dans d'autres départements. J'ai retrouvé quelques traces. Quand ils sont mariés, ils vont auprès de leurs beaux-parents remplacer un beau-frère mort à la guerre. Alors, dans toutes sortes de professions, commerçants, artisans. Voilà. Donc, la guerre est vraiment...
Il y a vraiment un bouleversement.
Ah oui, c'est un bouleversement très, très, très important.
Même dans ce monde des enseignants.
Oui.
De ces hussards de la République, comme on les a appelés à une époque.
Oui.
Est-ce qu'ils sont vraiment revenus hussards?
Ah non, bien sûr que non. puisque c'est un des grands phénomènes de l'après-guerre. C'est le développement dans le monde enseignant d'un pacifisme, d'abord, je dirais, de conviction, puis de militantisme, surtout à la fin des années 20 et dans les années 30. Les instituteurs reviennent profondément pacifistes et vont essayer de faire passer ça, alors ça arrive très lentement, dans les programmes et peut-être dans leurs pratiques pédagogiques, mais ça c'est un petit peu plus difficile à suivre pour le CHER en tout cas.
Alors justement, je sais que vous aimez beaucoup cette question, cette guerre terrible a-t-elle modifié les pratiques pédagogiques de nos instituteurs?
Alors. On ne peut répondre ni oui ni non parce que ce serait des généralisations trop hâtives et fausses. En fait, il y a plusieurs cas de figure. J'ai lu avec très grande attention les rapports d'inspection des inspecteurs primaires dans les années qui ont suivi pour les instituteurs dont je pouvais reconstituer la carrière. L'inspecteur note, et ça veut dire que l'inspecteur lui-même a changé, il note des méthodes passéistes qui lui semblent devoir changer urgemment. Voilà. D'ailleurs, je rappellerai que les autorités académiques, qu'elles soient laïques ou cléricales, se font ces remarques pendant la guerre. Le deuxième inspecteur d'académie de la période de guerre, qui s'appelait Monsieur Gestucci, se lamente périodiquement dans ses rapports annuels de la routine qu'il faudrait secouer en disant « l'école ne doit plus être un milieu clos ». Il parle de « petit temple » et l'école a besoin de s'ouvrir à l'extérieur.
Il est révolutionnaire.
Presque autant ou presque moins que l'archevêque.
Ah, justement.
Qui est pourtant le célèbre Monseigneur Isard et qui, enfin, en tout cas, ce que l'on peut en trouver dans la semaine religieuse, indique qu'il faut changer les pratiques d'enseignement. Et ça rejoint très curieusement ce qu'on voyait dans certains articles syndicaux avant la Première Guerre mondiale, c'est l'insistance sur les méthodes actives, la participation des élèves. Il faut leur montrer la vie, les faire sortir de l'école. En fait, c'est la reprise, je dirais, d'une discussion, voire d'une polémique qui avait eu lieu quand Jules Ferry a créé l'école, puisqu'il y avait deux écoles, si l'on peut dire, deux philosophies sur l'école. Soit c'était un milieu protégé du monde où on ne formait que, je dirais, à la lecture, à l'écriture, je dirais au travail intellectuel, alors qu'il y avait un autre mouvement qui voulait insister sur une formation plus pratique, formation agricole, formation pré-professionnelle, et qui avait été abandonné par l'école de Jules Ferry. Et on voit ressortir ces idées, alors à la fois dans les autorités, mais aussi dans les novateurs, ceux que l'on appelle justement les tenants de l'école nouvelle, qui est un mouvement qui était européen, qui est né avant la guerre, et qui va se développer évidemment en France. Celui qu'on connaît le mieux, c'est Freinet, la méthode Freinet.
Parlez-moi de Monsieur Freinet. Ah, c'est passionnant parce qu'il a fait la Grande Guerre.
Il a fait la Grande Guerre, il a été très très gravement blessé, et a été publié il y a très peu de temps une étude sur lui avec de larges extraits de son journal. Et en fait, où on voit que il n'a pas beaucoup aimé son passage à l'armée. Il n'a pas été nommé sous-lieutenant, donc il était un peu, on va dire, critique sur l'armée. Mais en tout cas, il a beaucoup observé la façon dont la tactique changeait à l'intérieur de la section, de la sous-section, et en tenant compte de son invalidité pulmonaire qui l'empêchait de respirer convenablement, il se fatiguait très vite. Ce cocktail, si l'on peut dire, va aboutir à sa méthode, qui est une méthode de coopération à l'intérieur de l'école, faire que les élèves soient autant acteurs que le maître. Et au fond, c'est une leçon de la guerre où tous les auteurs notent très précisément que, en fait, l'évolution de la tactique dans les tranchées et à l'intérieur de la section, qui donne beaucoup plus d'importance aux spécialistes, en particulier ceux qui s'occupaient du fusil mitrailleur, a profondément changé la hiérarchie de commandement à l'intérieur de la section. Et c'est comme si cette expérience militaire avait débordé sur les pratiques pédagogiques.
Vous nous avez beaucoup parlé de l'école publique, mais il existait aussi une école confessionnelle.
Absolument.
Alors,
j'ai très peu de choses. En fait, les sources archiépiscopales sont très lacunaires et ont été peu, je dirais, organisées, peu étudiées, peu classées. Alors, en fait, j'ai eu quelques renseignements par l'inspection académique, puisque oui, tous les ans, dans le rapport annuel, l'inspecteur dresse un état très, très rapide, beaucoup moins circonstancié que pour le public, dresse un état des écoles dont il a la charge, puisqu'il exerce une tutelle sur ces écoles. Donc, surtout des écoles de filles, en très grande majorité, quelques écoles maternelles. Alors, avec bien sûr un personnel essentiellement féminin, mais quand même, il y a eu un livre d'or des prêtres et professeurs de l'enseignement privé combattants qui a été publié par l'archevêché après la guerre et qui fait état justement de comportements extrêmement braves, courageux de la part de prêtres, alors éventuellement eux aussi professeurs dans l'enseignement, mais aussi des maîtres laïcs, oui, qui ont, je dirais, combattu comme les instituteurs laïcs, qui ont reçu des décorations avec des prêtres par exemple. Il y a une figure très importante qui était le directeur du grand séminaire, qui était en même temps directeur de l'enseignement scolaire libre, qui a eu pendant la guerre, je dirais, une attitude de combattant tout à fait extraordinaire.
Alors, on peut parler d'union sacrée.
Alors l'union sacrée, oui. Par exemple, dans les écoles privées, on a collaboré aux œuvres de guerre, hein, tout autant que dans les écoles privées. La seule différence dans le discours officiel, et en particulier de Mgr Izard, qui était évidemment très virulent contre les lois Jules Ferry, et surtout les lois du début du XXe siècle, les lois Combes, l'union sacrée fonctionne. Il n'empêche que le discours se lamente périodiquement sur ces lois scélérates.
Merci beaucoup. Alors madame, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et pour la qualité de votre intervention. Manifestement, le sujet vous a passionné et nous passionne. Je sais d'autre part que vous n'avez qu'effleuré mes questions. Justement, je vous rappelle, fidèle auditeur, auditrice, que l'exposition « L'école en guerre 1914-1918 » portée par la section du Cher de l'Association des membres de l'Ordre des Pas Iconiques, est ouverte jusqu'au 13 janvier 2019 à la Direction des Archives Départementales et du Patrimoine, Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Fidèle auditeur, auditrice de l'émission « La vie militaire dans le Cher » sous le patronage d'Agora Défense, bonne semaine à vous.